Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi.
Yeah!
Onibi, hey. Qui est une eau d'excellente qualité.
Absolument.
En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable.
Il y a quatre saveurs.
Quatre saveurs. Ici, on a la lime. On
Mûre, orange sanguine et...
Fruit du dragon.
Fruit du dragon.
C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquire du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canneté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canneté.
En canneté.
Dans le secteur d'Amos.
Oui, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport.
Oui,
parce de la sœur qui va directement.
C'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle!
T'es bon, ça. Bienvenue à Bon en salle, le podcast du Théâtre des Escarres, une présentation de Onibi, parce que Onibi, c'est...
Bon en salle!
Ah oui, on rappelle que ce brainstorm-là, il a duré 30 secondes.
Est-ce que vous êtes déçu que je ne l'ai pas comme dit en cœur avec vous?
Ben, non.
Vas-tu fâcher le commanditaire?
Non, c'est pas une obligation.
Okay.
Si tu veux, on peut le refaire avec
à
toi.
À la fin, j'aimerais ça. Okay. Je pense que je suis rodé, là. J'ai compris le principe.
Il a compris le rythme.
J'ai vraiment le goût de le faire. Ouais.
Alors, c'est ça, pas besoin de présentation. Je pense que vous connaissez déjà mes deux acolytes, Pierre-Anthony, qui est là à tous les épisodes avec nous, et Benoît
oui.
Saint-Pierre.
Salut.
Et on est joint par aujourd'hui avec Jean-Thomas Jobin, qui vient présenter son spectacle ce soir au Théâtre des Escarres. Jean-Thomas, comment ça va?
Ben ça va bien. Je suis content d'être là. On est bien entouré. Il y a un public, ma foi, nombreux.
500 personnes?
Il y a 4 personnes. Juste pour mettre en contexte les gens, il y a 4 personnes, mais c'est... 4 des personnes les plus sympathiques et accueillantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et je dis pas ça, tu sais, si ça avait été 4 autres êtres humains, j'aurais sûrement dit la même chose, mais je suis content quand même d'être là. Puis on dirait que mon tabouret craque un peu, fait qu'il va y avoir des enjeux de fioriture sonore pour votre sonorisateur. Puis moi, je trouve que ça rajoute un peu d'accent.
Oui, bien ça le garde sur le edge, tu sais, il est tout le temps sénère, s'il y a des affaires, ça le garde présent dans le show, tu sais, c'est important.
Le gars, il hache la tête, là. C'est un bon hacheur de tête, ce gars-là.
Tu vois?
Pour ça qu'on l'a engagé.
Merci. Et parfois, en plus, il n'y a pas de cheveux, fait que ça fit bien avec son casque. Il n'y a pas de gosse.
Oui, c'est vrai. C'est, ils sont discrets. Tes écouteurs sont très discrets.
Sur 10, son hochement de tête.
Facile 8. Là.
Ouais, un bon 8.
Ah, ouais. Puis ses écouteurs, 2.
C'est une marque.
Ouais. Total 10, effectivement.
Ouais, ouais.
Très bonne contribution de la part du
public. Ben oui, le public, il nous en donne.
Ils vont nous en donner de la veillée. Quatrième one-man show?
Quatrième one-man show, oui.
District 31?
Ouais, tu l'as dit trop vite pour qu'on comprenne
le
rébut, là. Mais District 31. Puis là, peut-être que le monteur exceptionnel qui a des écouteurs exagérés, il pourrait rajouter l'affiche pour qu'on comprenne le rébut. Parce que quand je l'explique, puis il n'y a pas l'affiche, c'est pas très clair comme explication. Mais c'est une joke d'affiche, une joke de marketing. Là, 10 visages tricks, 30 tasses de thé, le chiffre 1. Puis le sous-titre, c'est « Espérer des salles combles grâce à la confusion ». C'est-à-dire que les gens qui étaient fans de District 31, ils faisaient « Ah, c'est la version scénique, je vais aller voir ça ».
Michel Charest n'était pas dans ce show-là.
Quand?
Que le monde
Michel
voit,
Charest et Gildor Ross ne sont pas là. J'avais une joke en rodage sur Gildor qui marchait quand même bien, mais la moyenne n'était pas suffisante. Je l'ai discarté, fait qu'il n'y a plus aucun nostalgien.
T'arrives pas en policier ou en... J'ai jamais écouté ça, c'est pas des policiers, hein?
Oui, c'est des policiers. Okay. Ouais. T'as sûrement retenu en voyant les mille et une annonces qui passent à
ouais, c'est sûrement
c'est dans l'univers d'un commissariat de police. Mais moi non plus, j'ai pas écouté une minute de ça, mais je sais que tout le monde le regardait. Donc, en fait, c'est juste que quand je me cherchais un titre de show, j'étais comme « Ah, y a-tu comme une référence ultra flagrante que... » Je pourrais essayer de créer un faux piège à con de genre, OK, les gens qui entendent juste le titre audio, ils vont être mêlés, ils vont faire comme, ah, j'ai tellement aimé l'émission, je vais aller voir ça. Puis là, Là, ça crée des grosses déceptions pour ces fans-là, mais je pense pas que ce soit vraiment arrivé, ceci dit.
Non, ça, c'est quand ça. Même, ça serait quand même drôle que tu refasses District 31, mais sur scène, en show, pendant une heure.
Et ben, shit, mais combien de saisons, Matt?
Avec tous les personnages.
Cinq saisons, mais pas mal d'épisodes.
Ouais, c'est une quotidienne.
120 par saison, il y a 600 épisodes.
C'est beaucoup d'épisodes quand même pour un show de police.
C'est pas mal. C'est des 22, mais quand même. Ça devait être rushant à écrire.
C'est de la job de police. Fait que ce qui est long, c'est tout le temps la paperasse. T'sais, c'est tout le temps les scènes de paperasse qui prennent extrêmement de temps.
L'effet des fois, il faxait, là. Puis quand il faxait, souvent, il y avait une longueur parce qu'il écrivait dans le script « Fax, on a besoin de temps. Pouvez-vous faire en sorte que l'envoi du fax, ça soit 2 minutes en onde?
» Fait comme si tu serais pas sûr du numéro, là.
Ouais, c'est ça, refais-le. Le plus, c'est que j'adorerais ça que dans des drames, des téléromans dramatiques et non comiques, qu'il y ait des scènes où on se fait troller par des affaires de même qui, soudainement, c'est un envoi de fax qui marche jamais. C'est une scène qui dure entre les deux annonces et que ça.
C'est juste tout le monde stressé parce que c'est ce qui va faire que le criminel va se ramasser en cour.
Ouais, c'est
ça. C'est juste comme faut que ça passe. Ouais, c'est jamais dedans, ça peut juste pas passer. Ah ouais, j'aime ça.
À suivre. Enfin, peut-être je lance l'idée à des créateurs.
Ça pourrait être une comédie dramatique fonctionnaire où ils n'ont pas le choix d'utiliser un fax pour transférer l'information à Ottawa ou à Québec.
Bonne piste.
Sinon, c'est café.
Comment il s'appelle l'auteur? Il s'appelait Luc Dionne. Si Luc Dionne écoute présentement, reprenez le synopsis de ce qu'il vient de dire. Mais
ça, il écoute vraiment le podcast beaucoup.
Probablement.
Il va sûrement être déçu que Mathieu ne soit pas là parce qu'il est très fan de Mathieu.
Ah, OK. Fait que ouais. Là, c'est, il est comme il comme s'adapte. Il faut qu'il s'adapte.
Ouais, c'est ça.
Je comprends.
C'est comment de faire son 4e one-man show?
Je suis content. Hier, j'étais à Matagami. C'est la première fois que j'y allais. Ouais. C'était vraiment bien été. C'était bien le fun. Première fois que j'y allais de mes 4 tournées. Là, je veux dire, pas dans cette tournée-ci. Dans le sens, je ne veux pas dire que j'ai beaucoup de supplémentaires à Matagami.
Je pourrais. 60 shows cette année.
Mais non, c'était vraiment le fun. Je suis content. C'est toujours le fun d'arriver avec une nouvelle proposition. Puis, tu sais, j'aime beaucoup faire de la scène. Des fois, c'est la route que je trouve plus difficile en vieillissant, là. Mais je suis très content d'être venu à Amos et dans à la BTB spécifiquement. Ça vaut la peine. Non, mais peu importe la distance, c'est ça que je trouve le plus lourd en vieillissant, la route. J'ai un problème de dos, fait que souvent quand je suis assis longtemps, il faut que je me lève, faire des petites marches pour pas être ankylosé. Mais hormis les déplacements, si la téléportation existait, je serais toujours ici.
L'avion, loin char.
Toujours.
Oui, mais l'avion vient avec des coûts supplémentaires qui tirent dans le pied de la production. Donc,
Sorte dans le
mais
champ.
Non, je suis vraiment content. La réception du spectacle est très bonne pour l'instant.
Puis tu sens-tu qu'il y a comme un push avec, tu sais, sous écoute Big Brothers, qui était vraiment plus présente un petit peu partout, dans le fond?
Ben, à savoir si ça se traduit en vente de billets, peut-être que si j'avais sorti mon show un peu plus proche de ma sortie de Big Brother, ça aurait probablement été plus marketing. Mais comme je suis aucunement marketing, à part pour mes titres de show ridicules, puis aussi les gens en ce moment, c'est une période un peu difficile aussi pour l'achat de billets pour les gens là, avec les taux directeurs, l'inflation. Puis je comprends totalement ça. Fait que moi, je préfère voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire pas que mes salles sont à moitié vides, mais je veux dire que dans le sens que j'ai juste la gratitude et la reconnaissance que ceux qui sont là sont présents puis ils viennent m'encourager. Puis je me trouve privilégié de continuer à gagner ma vie avec un métier que j'aime. Fait que oui, ça se passe bien dans le sens que il y a beaucoup d'offres, mais ce soir, je ne sais pas combien il y a de gens, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour divertir tous ceux qui sont là. Puis je pense que les gens qui vont être là, ben j'espère qu'ils vont en avoir plus que 4. Mais ces 4-là, j'aimerais ça qu'ils soient là parce que c'est le meilleur public au Canada. Je peux encore aller. Quand j'aurai un échantillon aux États-Unis, je pourrais faire le comparatif. Okay, au Canada, c'est l'échantillon de 4. Personnes les plus volubiles. Bon. Ils finissent jamais.
Ils s'enfoncent.
Mais ce que j'aime, en fait, j'avais même commencé cette approche-là avec mon show Apprendre à s'aimer, qui est mon 3e show, où je suis un peu moins encarcané dans mon personnage de scène. Puis je pense que pour rebondir un peu sur ta question par rapport au podcast puis par rapport à Big Brother, je pense que les gens après me connaître un peu plus sur qui je suis moins le stoïque cérébral sans émotion. Donc là, les gens ont compris, je pense que mes fans l'avaient compris, que c'était un personnage puis que l'être humain serait sûrement différent dans un monde idéal. Mais là, avec Big Brother puis les podcasts, je pense que ça a comme donné la clé à des gens.
Ça a démocratisé le personnage de Jean-Thomas.
Disons, oui. Mm-hmm. Puis un certain apprivoisement, puis que là, je peux embarquer dans... Il y a un volet un peu plus personnel dans ce spectacle-là où je raconte un peu plus de choses basées sur ma vie. Je l'avais fait dans « Apprendre à s'aimer », il y en avait un volet.
Il y avait un volet
là,
sur les échecs avec ton père, si je me rappelle.
Ça, je pense que c'est en podcast que j'ai raconté ça.
Ah, ben peut-être. Ouais, tu, je
mais je parlais peut-être que dans l'énumération pour qualifier mon père d'un cérébral, tout ça, parce que mon père a été champion d'échecs junior canadien quand il était jeune. Fait que probablement que c'était peut-être dans la prémisse. J'ai pas fait de numéro là-dessus, mais je faisais un numéro sur mes parents. Mais là, j'ai un numéro encore sur mes parents, mais sur le deuil plus spécifiquement. Puis là, je raconte des trucs plus vrais, plus basés sur ma vie, mais on voit que l'absurde est jamais très loin puis que mon vécu finit par être absurde en soi. Fait que ce que j'aime dans mon plaisir de faire ce show-là, c'est que je suis un petit peu plus détendu parce que j'ai moins l'impression qu'il faut que je défende toujours un personnage puis que si j'en sors, que ça le décrédibilise. Tandis que là, les gens ont compris la convention puis je pense qu'ils ont envie de s'amuser avec moi. N'est-ce pas? Ah oui! Les quatre ont haché la tête quasiment aussi bien que l'excellent de tête.
Steve, il y a de la compétition.
Ouais, eux sont à 9, t'es à 8, fait que t'as du travail à faire. Tantôt, quand je vais te demander ton approbation, travaille quelque chose.
Ah, c'est bon, ça, il sourit en plus.
Dans la mâchoire ou... bref.
Puis comment qu'on rajoute de l'absurde dans des histoires plus personnelles, justement? T'sais?
J'en rajoute pas, en fait.
La vie est juste absurde.
Oui, c'est-à-dire que je les commente avec ironie, je dirais. Ouais, c'est plus okay. Ça, c'est-à-dire que je raconte ce qui est arrivé, puis... C'est mon regard extérieur qui ironise de ça n'a pas de bon sens. Puis il y a aussi quand même assez. Ça revient quand même de temps en temps dans le spectacle. En tout cas, il y a sûrement un numéro là-dessus où je dis que c'est clair que je fais de l'humour absurde, mais que j'essaie de faire réaliser aux gens que la vie est souvent absurde en soi, puis que les êtres humains sont absurdes sans qu'ils s'en rendent compte. Puis là, je donne des exemples. Mm-hmm. Donc, dans mes anecdotes, exemple, dans le numéro sur le deuil, bien, tout ce que je raconte est 100% vrai. Moi, je trouve ça bien important pour moi. Pas par intégrité, mais un peu en même temps. En fait, je pense que c'est plus par rapport à mon aisance sur scène. Quand je tombe dans des trucs vrais, des anecdotes vraies, il n'y a rien de romancé, en fait. Parce que pour moi, je serais mal à l'aise avec le fait de raconter quelque chose en mode plus intime, mais mettons qu'il y avait juste une petite part de vrai puis qu'il y a une énorme romance... Je serais vraiment pas à l'aise. Je l'assumerais pas le numéro. J'aurais l'impression d'être charlatan. Ben oui, un peu. Parce que si, mettons, des fois, je on s'entend qu'il y a beaucoup de trucs depuis le début de ma carrière que j'ai raconté qui étaient complètement inventés de toutes pièces. Les gens étaient comme, c'est clair que c'est inventé. Mm-hmm. Mais si j'assois le numéro, j'assois une anecdote ou un petit récit en disant que c'est arrivé, c'est arrivé. Mm-hmm. Il y a peut-être des fois une petite affaire que je vais exagérer ou caricaturer un petit truc avec une phrase supplémentaire, mais l'anecdote ou le récit est vrai parce que sinon, je n'aurais pas choisi d'inventer ça. Moi, je trouve ça juste drôle parce que c'est vrai. Si ouais. C'est inventé, c'est pas drôle.
Mm-hmm. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Donc, c'est ça, les petits récits. Il y a comme le numéro sur le deuil, mais il y a aussi... je raconte les moments importants dans ma vie depuis ma dernière tournée Apprendre à s'aimer, puis c'est toutes des affaires vraies. C'est des petites vitrines, là, mais c'est toutes des choses vraies. Il n'y a pas d'invention là-dedans. Je ne suis pas un inventeur. Je suis un grand inventeur, c'est-à-dire que le paratonnerre, j'ai aidé Benjamin. Je pense que c'est Benjamin Franklin, paratonnerre. Ouais, c'est Benjamin. Ces deux-là sont complètement largués.
T'es fait bien chez 209 ans. Ça,
mais non, mais c'est parce que moi, j'étais en réincarnation, j'étais à ma septième vie, puis j'étais en contact avec Benjamin Franklin à une certaine époque.
Mais t'es un peu un chat, dans le fond?
Oui, exactement. Oui, puis j'adore les chats, donc ça Ça fit avec ma personnalité. Mais c'est ça, j'ai aidé Benjamin Franklin. C'est un pro-là, je pense qu'il est fini. Là.
Parce qu'on le peut voir, là.
On aurait pu continuer 5 minutes, je pense.
Ouais, j'avais mais j'étais comme, ils ont sûrement des questions, ces gens-là.
Oui, oui, on parlait de notre question, effectivement. Puis tantôt, je suis rentré par le théâtre. Fait que j'y vais un peu comme le setup de la scène, puis tout ça.
Ouais.
Puis quelqu'un qui rentre, puis qui regarde ça, comprend pas ce qui se passe. C'est-tu toi qui fais tout le design ou t'as quelqu'un qui décide que, hey, on va installer le décor pour toi? Comment ça se passe, la création de ton décor?
Mes deux bons amis, un qui s'appelle Zipper Tattoo, qui est rendu une référence dans certains podcasts parce que maintenant c'est lui et Stéphane Baudet, un autre ami, qui font la réalisation de Rince Crème, un nouveau compétiteur. Ouais.
Je pense qu'il nous clenche de 600 000 Patreon.
Donc, c'est mes deux bons amis, puis c'est eux qui sont graphistes aussi, donc on brainstorm pour mes idées d'affiches ensemble et ils font aussi ma scénographie. Donc, on brainstorm ensemble, puis on fait « OK, ça fit avec le cours ». Ils viennent voir le rodage ou le pré-rodage, disons, c'est-à-dire avant que la scénographie embarque. Puis là, on parle, puis ils me disent « Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Puis là, je nomme des options, puis là, ils rebondissent sur des idées, puis tout ça. La scénographie dans ce show-là est minimaliste, mais elle a quand même un certain rapport avec la thématique du show. Entre autres, je parle beaucoup de ma peur de vieillir dans ce show-là, qui est une peur réelle. Et il y a un lien avec le décor. C'est vraiment une façon incroyable de teaser les gens pour qu'ils viennent voir. Et je veux voir le lien entre le décor et la thématique. Là.
Quand ils vont écouter ça la semaine prochaine, ils ne pourront plus.
Ils ne pourront pas venir à Amos. Là, mais
il y a des rappels en masse.
Comme vous avez un public provincialement très étendu.
On va le laisser à tout le monde. Est-ce que c'est eux qui étaient sur... c'est dans Apprendre à semer que c'était des moutons?
Oui, ils étaient aussi. Il y avait des rames, des moutons... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des rames, des moutons. Les tâches de recherche. Très fort. Très une mémoire prolifique. Mais il se rappelle
c'était
plus de mon
show.
C'était
juste trois grands camps sur cinq.
Ouais, ben, c'était des panneaux, des tâches de recherche, mais des tâches de recherche inventées. Là.
Ouais.
C'est-à-dire que.
Je pensais que c'était toujours inventé, moi, les tâches de recherche.
Non, il y en a des officiels.
Comme le papillon, genre, qu'on voit partout.
Genre, mais je pense qu'il y a. Je sais pas, c'est entre 5 et 10 tâches de recherche qui sont comme officielles que les psychologues se servent.
OK.
Puis nous autres, on en a créé. Puis me semble, tu te rappelles plus de mon show que moi. là, je fais comme un lien avec ma thérapie, puis qu'est-ce que j'ai vu dans ces tâches-là, puis tout ça. Puis à mon souvenir, il y a des moutons puis des rames. Uh-huh. C'est ça qui m'avait fait penser à faire mon... Cette scénographie-là, c'est que c'est l'étage de recherche qui me l'avait indiqué
oui, c'est ça.
Dans mon subconscient. Quelque chose comme
parce
ça.
Parce que toutes les moutons, c'est juste par rapport à ça, dans le fond. C'est juste par rapport à ça.
Oui, exact.
Ouais, c'est ça.
Des moutons et des rames qui sont
mais
deux.
Dans ce show-là, tu avais déjà parlé un peu du deuil.
Quand ma tournée a commencé, mes parents étaient en santé, majoritairement en santé et vivants. Ils sont décédés pendant ma tournée. Donc, c'était pas un numéro sur le deuil, mais à partir du moment où mes parents étaient décédés puis les gens l'ont su, quand je faisais mon numéro, j'accusais le fait que mes parents étaient décédés puis que je continuais à parler d'eux au présent dans le numéro parce que je trouvais que ça aurait été un... J'étais rendu loin dans ma tournée puis là, je voulais pas changer le numéro. C'est un numéro qui marchait, mais je me disais, ça va être comme une... un relais, une continuité, un hommage. Fait que,
ouais.
T'sais, dans ma captation, j'accusais le fait qu'il était décédé, mais ça se voulait pas un hommage à ce moment-là.
OK, OK. Mm-hmm.
Je disais que ça en devenait un parce que c'était comme un leg que je voulais faire parce que c'est un numéro où j'ironisais un peu certains traits de mes parents, mais de façon affectueuse. Mm-hmm. Mais je trouvais ça important de l'accuser parce que j'avais fait comme si de rien n'était. Quand j'ai commencé ma tournée, je ne pouvais pas savoir que ce qui allait arriver. Donc, je pouvais pas faire semblant. T'sais, les gens n'auraient pas ri si je n'avais pas comme j'avais pas dédouané ça. Mm-hmm. Tandis que ce numéro-là sur le deuil, ben là, c'est vraiment plus des trucs qui sont arrivés post-décès.
Okay.
Donc, dans les funérailles, ces affaires-là. Donc, voilà.
Okay. OK.
Mais pour répondre à ta question, mes deux amis graphistes, scénographes, était effectivement rentré en jeu pour apprendre à s'aimer. C'est on a commencé à travailler ensemble sur le show à partir du troisième show. Ouais.
Mais là, je viens d'apprendre que tu sais, les tâches, il fallait pas que je m'en serve pour me décrire psychologiquement. Là.
Non. Ben, si tu veux t'enliser dans la vie, tu peux, mais c'est pas...
Il vient de passer 6 ans.
Oui, c'est ça. Ben, là, mettons, je viens d'apprendre que je fais pas de l'anxiété, finalement.
Ben, c'est pas de nouvelle.
Ouais,
ben,
pour toi. C'est pas de nouvelle. Mais, ouais, non, c'est pas des vraies tâches.
OK. Ah,
fait cool. Que si t'as pas de bouton de rame dans ta vie, c'est pas grave. tu peux
être... J'étais en train de devenir fermier. C'était vraiment...
Ah, OK.
J'étais rendu loin.
OK, mais est-ce que tu t'es acheté une embarcation aussi?
Oui. J'ai en fait ma ferme. Elle est sur l'eau.
OK, parfait. Okay, bon.
C'est l'arche de Noé 2.
Ouais, ben, son nom Noé 2.
Hey, c'est le podcast où il s'en passe.
Calvasse.
Est-ce que, tu sais, là, c'est ton 4e spectacle. Là, tu commences à faire tes tournées.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà imaginé un 5e spectacle?
Non.
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 Des fois, les humoristes, pendant qu'ils font une tournée, ils pensent déjà au prochain. Là.
Ben, je me prends des notes vocales ou des petites notes quand j'ai des idées, parce que je faisais pas tellement ça en début de carrière, mais maintenant que j'ai commencé à raconter des choses qui me sont arrivées ou que, je sais pas, je constate quelque chose puis je trouve qu'il y a moyen d'ironiser ça ou qu'on peut faire du pouce dessus, je le note. Mais des fois, ça arrive aussi, tu sais, comme... depuis que la tournée est plus entamée, des fois j'ai envie de me garder sur un pied d'alerte, j'essaye une idée, je valide une idée à un endroit que je me dis, bon, je veux pas que ça fragilise trop le show si c'est un désastre, mais tu sais, je partirai pas dans un numéro de 6 minutes, mais des fois juste un gag ou juste filer la réaction, j'aime ça faire ça, puis si ça marche pas, je l'accuse, puis c'est pas grave, on passe à autre chose. Les gens, des fois, sont contents d'entendre un petit truc. Ah, puis je vais peut-être, ce soir, j'ai comme eu un petit truc que j'ai écrit ce matin, je vais peut-être l'essayer ce soir, à voir.
Là, tu vois, il y a encore du monde qui vont juste scruter le show, entendre juste ça.
Ouais, mais ils sauront pas.
Ils sauront
peut-être...
pas, c'est quel gars.
Ben, des fois, je l'accuse, mais en fait, il y en a un que j'accuse encore parce que je vérifie... si la statistique est assez bonne. Puis pour l'instant, il marche assez bien. Mais je verrai. Mais donc, le 5e, non. C'est ça. J'avance en âge, fait que j'y vais un à la fois. Ça a été quand même... Il faut dire qu'il y a eu la pandémie aussi. Fait que mon rodage a été morcelé aussi. Puis c'est apprendre à s'aimer, ça fait quand même un bout de temps qui était sorti. Puis je verrai où j'en serai rendu dans 4-5 ans.
Tu sais, ce que tu viens d'amener sur les bits là, que tu rajoutes dans les spectacles, as-tu toujours fait ça ou c'est nouveau ou tu te permets plus?
C'est plus depuis Apprendre à s'aimer que je suis moins dans un personnage. On dirait que je peux plus l'accuser.
Où ce que je m'envoie que ma question, c'est que tu sais, je sais que les Denis Drolet, c'est écrit à la virgule, puis que tu vois ce show. T'étais-tu comme ça avant, puis là, ça commence à devenir plus laid-back, plus
périphérique? C'est encore écrit à la virgule, c'est-à-dire que c'est dans le sens que quand, mettons, je veux comme essayer un gag, souvent, c'est pas nécessairement à l'intérieur d'un numéro, c'est comme plus une pensée, une réflexion. Puis quand je choisis un endroit dans le show où je raconte un peu des liners, où je fais des liners après l'autre, là, je fais comme, bon, ben celle-là... peut l'essayer là, ça fit là, puis si ça marche pas, je l'accuse, mais on passe au suivant, puis c'est pas plus grave. Mais même mes numéros basés sur des anecdotes réelles, avec un fond de vrai, maintenant, quand je fais du pré-rodage dans comédie club, des trucs comme ça, ben j'aurais jamais pu faire ça en début de carrière, j'aurais été paralysé de gêne et de frayeur, mais maintenant, ça m'arrive que je fais comme, OK, je vais... juste raconter le petit récit, mettons que ça dure 3-4 minutes, puis je l'insère, mettons, au milieu d'un 15 minutes, puis je fais comme, OK, je dis aux gens, hey, je vais vous raconter quelque chose, juste voir si ça vous amuse, si ça amuse quelqu'un d'autre que moi. puis là, ben, si ça marche, ben, je fais ça 3-4 fois, puis là, je l'écris pas, mais oui, c'est-à-dire que l'écriture s'est faite un peu sur scène, puis j'enregistre, puis je fais comme, OK, ben ça... ça marche, mais des fois, je fais comme, OK, ben le récit est le même, mais je vais juste Changer l'ordre des mots ou quel synonyme pourrait être plus payant à la fin de la phrase, parce que des fois, il y a des mots qui sont plus déclencheurs de rire. Donc là, je fais des essais, mais le récit reste le même.
Oui, oui.
Mais des fois, je peux peut-être ajouter une touche d'ironie ou continuer à commenter ce qui m'est arrivé. Puis là, j'essaie des petites affaires, mais à un moment donné, je le solidifie comme là, tu sais. La différence entre le show que j'ai fait hier et ce soir, quelqu'un qui a vu les deux parce qu'il m'adore, ces quatre-là, c'est assurément qu'il était là à Matagami.
Deux, là.
mais c'est le même show. Là. Je suis bien dans mes pantoufles quand je sais que une façon de livrer, une façon de structurer une phrase déclenche en général un rire. C'est sûr qu'il y a toujours des variantes, il y a des gags qui vont avoir mieux marché à Matagami que ce soir et l'inverse. C'est ça, on peut pas prévoir ça, mais à un moment donné, quand tu bâtis un show, tu as comme une moyenne que tu trouves satisfaisante. Puis, tu sais, c'est pas un show. C'est encore un show que je sais qui va probablement être meilleur dans 6 mois. T'sais, tous les humoristes, on sait bien que notre première médiatique, ben, à un moment donné, il faut la faire, mais on fait tout le temps par trouver des petits trucs pour améliorer. Ça s'améliore toujours un contenu. Puis.
C'est sûr qu'avec le nombre de fois que tu vas le répéter, puis tu vas répéter aussi, tu vas gagner de l'assurance.
Exact.
Je suis pas mal sûr que tu as bien d'assurance sur ton texte, mais quand même.
Non, mais tu sais, des fois, juste. Mais tu sais, puis il y a aussi des affaires qui sont pas hilarantes, là, dans le sens que je prétends pas que tout le reste est hilarant. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des trucs, des fois, que dans l'esprit du show, pas du show, mais certains segments, que. Peut-être que c'est plus souriant que drôle par des petites séquences, mais ça aide à la globalité pour moi de ce que j'ai envie de dire. Ou de, tu sais, mettons le numéro sur le deuil, il y a des bouts qui sont pas si crampants, mais que je pense que les gens apprécient dans la globalité du numéro, je pense. Là, ils me l'ont pas dit nécessairement, mais
c'est le genre de commentaire qui est weird à savoir en dehors de ça. J'ai pas ri tout le long, mais c'était très important.
Mais t'as-tu vu un changement depuis que tu as commencé à faire des numéros où tu parles plus de toi un peu plus? Est-ce que tu as vu des changements avec tes fans autour? Est-ce qu'il y en a qui ont dit « Ah, je te connaissais pas comme ça. » Puis c'est...
Ils sont partis.
Soit qu'ils sont partis, soit qu'ils sont revenus. Là,
Ben, c'est dur à dire dans le sens que je pense qu'à cause des podcasts où je racontais des trucs basés sur ma vie des fois, puis j'étais comme « les gens, ça résonne pour certaines personnes. » Ou ça
c'est allé loin dans tes...
Oui, c'est allé loin.
Pas besoin de le mentionner.
J'ai un clin d'œil là-dessus ce soir d'ailleurs. Mais, peut-être qu'il y a des fans qui étaient vraiment fans de mon absurde le plus déconnecté qui ont quitté, pas la représentation, mais peut-être qu'ils sont venus à apprendre à s'aimer. Personnellement, apprendre à s'aimer, j'aimais beaucoup ce show-là. Je pense que ça me ressent. Il y a encore beaucoup d'absurdité dans mon show là, en ce moment. Ce serait de la fausse représentation de dire que c'est pas un show absurde, ça l'est, mais il y a des teintes un peu plus personnelles. Je dirais que plus le show avance, là, le début du show est quand même déconnecté. Mais bref. Mais peut-être qu'il y a certains de mes fans qui étaient plus fans du côté absurde, pur et dur. Puis quand je tombe dans le personnel, que ça leur plaît moins, puis qu'ils m'ont abandonné. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai pas,
ils personne t'en ont pas dit ça non plus.
Ils m'ont pas écrit pour me dire I'm out, baby. mais je pense à l'inverse aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être appris à me connaître à Big Brother ou dans des podcasts qui, là, sont pas déroutés par cette approche-là parce que c'est un peu plus personnel quand même.
Ça ressemble plus à ton personnage de podcast, justement.
Genre. Mais tu sais, je suis pas dans une livraison totale non plus. Je raconte pas toutes les... Mais tu sais, je pense que le numéro sur le deuil, c'est le numéro le plus personnel. Mais il y a d'autres petites bribes ça et là. Ça se passe bien?
Oui, j'étais en train d'arracher la nappe.
Je pense qu'il va essayer de créer des bloopers. Les gens, il y a eu beaucoup de bloopers avant que ça commence.
Puis là, tu sais, on a parlé un peu de Big Brother puis de l'impact que ça a eu.
Oui.
Évidemment, Survivor Québec, t'es plus comme analyste. Ça te fait-tu chier de pas être sur le terrain puis de pas jouer le jeu?
Ben, en fait, Ben, la genèse de Survivor au Québec, c'est un peu à l'origine de proposer l'idée à Production J, qui l'a ensuite relayé à Bell. Fait qu'à partir du moment où je suis à l'origine de l'idée, je peux plus jouer. Là, t'sais, dans le sens, je tombe de l'autre côté. Mais la saison 1, j'ai participé au casting. J'ai participé au choix des épreuves, au twist. Je suis allé sur place. J'ai fait des petites vignettes pédagogiques. J'ai assisté aux coulisses de. Pour moi, la saison 1, je tenais à tout prix à y aller. Ça a fait en sorte que j'ai je me suis retiré du show d'analyse parce que j'étais spoilé, puis je trouvais que ça manquait d'intégrité. J'avais l'impression que ça allait être une éternelle marche de funambule pour essayer de pas laisser entrevoir ce que je sais. Puis là, les collaborateurs, eux, n'auraient pas été à la même place que moi. Ils se seraient dit « Pourquoi Jean-Thomas dit ça? Qu'est-ce qu'il sait qu'on ne sait pas? » Puis ils auraient essayé de gratter. J'étais vraiment pas bien, fait que je me suis retiré. Mais là, c'est tourné en ce moment et j'ai averti la production « Je veux rien savoir, dites-moi rien. » Et ils m'écoutent. Fait que là, je vais pouvoir l'analyser de façon organique en même temps que les gens. Fait que là, je vais vraiment triper, je pense. Mais j'ai participé aussi au casting.
Fait que tu sais qu'il y a notre mère.
Je sais, c'est moi qui ai choisi le mère. Fait que ceux qui sont pas contents qu'ils soient là. Mais non, mais en fait, moi, ça, c'est pas. J'étais pas tout seul là, quand j'ai choisi le maire. Je suis un des fous.
T'as mis ton pied à terre, t'as fait « C'est lui qu'on prend. »
On a un maire d'une petite ville en Abitibi. Get him over.
J'ai un show durant ce mois-là.
Non, on était 5-6. Mais c'est sûr que quand quelqu'un se présente, puis c'est un maire actif, c'est vraiment interpellant pour une émission télé comme Survivor, surtout dans un jeu qui est sociopolitique. Mm-hmm. Beaucoup d'avoir un maire actif qui pratique la politique, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il était bon en audition. Assurément que son rôle, ce qu'il est dans la vie, est un énorme facteur, mais il était intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il était capable de bien défendre ce qu'il projette de pouvoir être sur l'île. Mais c'est sûr que quand il est rentré, puis au début de la présentation, puis c'est. Il faut qu'ils disent leur nom, leur âge, leur profession. Puis là, je pense qu'il y a dit Sébastien Dastouze, 47 ans, maire d'Amos. C'est sûr que tu fais comme « Hein? » Mais tu sais, à savoir, tu sais, quand les candidatures ou le casting est sorti, je pense que ça a dû polariser un peu dans la région. C'est bien correct. Mais
ça a fait rire beaucoup aussi, je te dis. Là, c'est le monde on rit.
Mais tu sais, ça, c'est en tant que comité, c'est pas notre... C'est à lui de savoir comment ça va être reçu. Est-ce qu'il fait ses préparatifs en amont? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre le relais? Est-ce que ça va être bien vu, mal vu? Qu'est-ce que je fais justement pour que ça soit le mieux vu possible? Est-ce que je retire pas aucun salaire du moment où je suis parti? Toutes ces affaires-là, pour moi, ça lui appartenait. Fait qu'à partir du moment où il a assurément réfléchi puis se présente devant nous, bien... Si nous, on fait comme « Hey, c'est intéressant pour le show »,
on va le prendre.
Ah, si ça choque, c'est plus à lui à dire.
mais il risque d'être intéressant pour le show.
Ben moi, j'ai hâte de le voir en chest. Mais ça, c'est
il y a l'air quand même cote.
Il faudrait que la production ait un regard, un gros plan sur son regard qui est tellement perçant que
les yeux
tout
bleus.
Le monde va...
C'est vrai qu'il y a des yeux, des yeux bleus, mais il a été réélu. Donc, il y a quand même une cote d'appréciation.
Ça fait 10 ans, 15 ans quasiment, depuis Ulrich. Plus le riche Ruben, dans le fond, qui est maire.
2015.
Donc, grosso modo, il est apprécié. Il ne fait pas l'unanimité, mais il est apprécié, c'est ça?
Oui, effectivement.
Je ne pense pas qu'il y a zéro maire. Ben, je ne pense pas qu'il y a un maire au Québec qui
est
accepté par tout le monde.
Ben non, c'est ça. Mais bon, à voir. Ceci dit, j'ai de la misère à imaginer qu'il va jouer une game ultra cutthroat.
Dans le monde de Damas, ils vont capoter. C'est pour ça qu'il est tout le temps tout seul à se présenter.
mais s'il joue une game ultra vilaine, je vais rire et je vais être content.
Bon.
Je serais vraiment surpris parce que je pense quand même qu'il va penser à son image. Je pense qu'il va là parce que c'est un défi personnel. Il nous l'a dit puis il avait trippé sur la saison 1. Puis je pense que c'est une belle représentation aussi pour Amos et la région. Mais il faut qu'il... Ça dépend comment il va jouer. Ça dépend des valeurs qu'il prône dans le jeu. Ceci dit, c'est un jeu. Les critères, l'échelle de valeur que les gens... est très variable. Quelqu'un peut jouer une game très vilaine, mais bien récupérer
Survivor, qui a beaucoup de backstab.
Oui, exact. T'sais, donc, à voir, mais si vous avez...
C'est quand même drôle parce que c'est comme le deuxième maire à Amos qui fait cette apparition, une apparition publique à la télé parce que Ulrich Chirouin a fait...
Le banquier.
Le banquier.
J'ai lu ça, je savais pas ça, mais je suis allé sur Reddit puis quelqu'un
le Reddit de Ulrich Chirouin.
Je fais comment, mais... Amos, il trouve que c'est un angle de faire de la télé.
Mais, le banquier, il avait été pour le centième de la ville, ramasser des fonds pour faire fêter notre centième.
Ah, OK.
C'était pour ça qu'il y avait un objectif en arrière. Lui, c'est pour nous faire rayonner.
Ben, je pense que c'est pour faire rayonner, mais c'est aussi un défi personnel. Puis c'est correct. Effectivement, c'est sûr qu'il y a une responsabilité qui vient avec ça.
Ouais.
Mais c'est son département, je répète.
Je suis curieux, tu sais, parce que tu dois avoir vu tous les Survivors américains, I guess, que tu as suivi tout
même
ça.
Même australiens, néo-zélandais.
Tu es le premier politique?
Tu vois passer actif, j'ai jamais vu ça. Il y a des gens, tu sais, mettons, un attaché politique, un diplomate actif, mais un maire ou un ministre actif, ça me dit rien.
C'est drôle, c'est un ministre, par exemple.
Oui.
Bernard Drinville.
Et dans la région qui sont intéressés.
Justin Trudeau, il va arriver sur l'île, c'est l'autre.
Sûrement que les trois députés de la CAQ en région ont du temps libre, là, j'imagine.
Mais petite anecdote, ce n'est pas le seul maire actif à s'être présenté.
Ah ouais?
Ah ouais? Ah ouais? Il y a une mairesse dont j'oublie le nom et j'oublie le village.
Le village de Montréal.
Mais un village un petit peu plus obscur. Disons, j'avais jamais entendu le nom de ce village-là. Qui s'est présentée, puis elle nous a vraiment beaucoup divertis, mais on était comme, je pense que ça se pourra pas, mais dans le sens que, en tout cas, pas cette fois-ci du moins, mais elle était vraiment divertissante, mais on était comme deux maires actifs. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, y a plein de monde qui quitte la politique là, à cause du harcèlement un peu au Québec. Là.
Ouais, ouais, ouais. C'est
polémique, là, 10%, je pense, des conseillers maires qui s'en vont. Fait que c'est peut-être un échappatoire ou en tout cas des vacances.
Ouais, peut-être.
Dire, OK, là, j'atteins mon bout de rouleau, mais là,
je suis tanné de confronter des gens qui me mentent tout le temps. Je suis à la Survivor.
Oui, c'est ça.
Faut être plus relax parce que c'est à la TV.
Mais il y avait une bonne note dans parce qu'ils font des tests de piscine, entre autres. Il y avait c'est un bon nageur. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans les épreuves, mais il y a eu un A en piscine.
Ah, oh, quand même.
Il y a eu combien en vélo? Ah,
je ne sais pas, ouais, c'est ça. Il a fait un petit triathlon.
Y a-tu un F à quelque part?
Ben, en fait, c'est le seul test, c'est vraiment le test piscine parce que.
Il y a des dangers.
Il y a quand même certains dangers, donc c'est ça.
Ça serait quoi ton conseil pour Sébastien Dastou, tu sais, en termes de jeu? Tu sais, si tu avais un conseil à
donner? Un conseil pour me divertir, soit ultra cutthroat. Mais je sais pas si j'étais lui, je pense que je dirais pas que je suis maire. Mais déjà, si tu ouvres les écluses du mensonge, ben quand est-ce que tu les refermes? Mais moi, si j'étais lui, je dirais pas que je suis maire. Un, parce que les gens associent à un maire actif qui a été réélu, un bon parleur. Assurément, c'est quelqu'un qui est habitué aux communications.
Ou à l'inverse, un politicien, un menteur.
Comment?
À l'inverse, les gens peuvent associer les politiciens des menteurs aussi.
Mais d'après moi, il va le dire. Il nous a jamais parlé de ça. C'est-à-dire, je pense qu'il réfléchissait en audition, mais je sais pas s'il est arrivé à une conclusion. En fait, je pense qu'il est aussi ingénieur. Il y a quand même plusieurs métiers. Ouais. Fait qu'il pourrait toujours dire juste
semi-vérité.
Cacher son rôle principal, mais parler de. Je pense qu'il est aussi dans la MRC de notre région.
Il est préfet.
Ben, ça, c'est peut-être pas mieux pour lui.
Ça vient un peu vendre le fait que tu étais en politique, par exemple.
Ouais, mais peut-être ingénieur. Ouais. Peut-être que je suis ingénieur.
Il pourrait dire ça en dernier, là, quand il reste deux personnes.
Je suis maire!
S'il serait enfin, il pourrait le dire. Je crache le morceau, je suis maire, Damos.
Techniquement, c'est prof de cégep que Mathieu nous dit.
OK.
Ouais.
OK,
mais il est aussi ingénieur. Hein?
Ouais, mais tu sais, ce qu'il amène en région, c'est l'ingénierie, ouais.
OK, parce que l'ingénierie, tu sais, à la limite, il y a tellement de small talk à Survivor ou Big Brother, ces jeux-là, que si tu t'inventes une job, il faut que tu sois capable de la crédibiliser et de la défendre. Fait qu'au moins, l'ingénierie, si maintenant il se fait poser des questions, il peut faire du millage.
Ça me rappelle, dans Big Brother Canada 10, il y a une des personnes qui était pédiatre, puis il a menti tout le long qu'il était pédiatre. Il a dit « Je suis biologiste marin ». Puis là, il a comme pris la pire job pour mentir. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'est mis à lui poser des questions. Puis là, il savait pas quoi répondre parce qu'il n'est pas biologiste marin. Puis là, il était comme, ouais, tel poisson, ça vit à quel endroit? Puis là, il était comme, dans le pacifisme.
Dans le pacifisme, oui.
Dans ce poisson qui aime la paix.
Oh my God.
Mais ouais, ben c'est ça. Il faut que tu puisses étoffer tes menteries dans un monde idéal. Mais je sais pas trop. Moi, mon conseil, ce serait, dis-le pas que t'es mère. Dis que t'es ingénieur. Puis contourne les... Ou prof. Puis contourne ces conversations-là... Mais tu sais, ça se pourrait toujours que quelqu'un le reconnaisse. Mais à mon souvenir, dans les 20, y a-tu quelqu'un d'autre de l'Abitibi? Je pense pas, je pense que c'est le seul.
Personne d'autre de l'Abitibi, non.
C'est votre,
ils ont
c'est
été
votre
éclipsés
seul
sur un
représentant. Comment?
Sinon, ils ont été éclipsés sur un hostie de temps.
Ouais, mais on le savait que ça ferait jaser quand ça sortirait, là. Évidemment, ça fait partie un peu de... Ben tu sais, j'en parlais tantôt que... C'est il y a un hook, là, ça crée un hook, ça, ouais. C'est sûr. Mais c'était pas son seul atout. Mais c'est ça pour un diffuseur. Ben, toutes les choses potentiellement qui font jaser et qui créent un impact. Ben,
ça fait du marketing.
Ça fait partie du grand éventail de critères.
Non, clairement, c'est sûr qu'à Amos, il y a plus de gens qui vont
savoir c'est sûr.
Que Survivor, ça existe.
Ben oui.
Mais il y a plus de monde qui vont l'écouter de base.
Ouais, aussi. Là,
ceux qui l'aiment vont vouloir cheerer pour lui, puis ceux qui l'haïssent vont faire comme « Quand est-ce qu'il se fait sortir, hostie? »
Ça, il sait pas nager!
Ouais, <c'est ça. rire> est-ce que tu ferais un Big Brother All-Star? Tu sais, un Big Brother célébrité All-Star?
Ben, si un jour... d'après moi, ils vont en faire une édition spéciale un jour, je pense que j'aurais de la misère à dire non. Parce que, ben, un, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que je serais vraiment dans la merde. Mais j'aurais de la misère à dire non parce que je pense que je serais pas capable. Ben, pas capable. J'aurais de la difficulté à le regarder sachant que je me le suis fait proposer et j'ai dit non.
Ouais.
J'étais comme, pourquoi je suis pas là? Puis, à la limite, tu sais, mettons, pour moi, la question que je me poserais, c'est est-ce que, parce que je dirais que les chances que je regagne sont limitées, je suis assez conscient de ça parce que c'est un jeu que la notion de cible et de menace devient tout le temps un facteur. Ma réflexion, si un jour je me le fais proposer, risque d'être de l'ordre est-ce que d'avoir gagné puis d'avoir comme un genre de plénitude de tu sais, ça s'est bien passé. Puis là, que la fin de mon parcours, mon grand parcours, soit par une défaite, ce qui n'est pas déshonorant, il y en a juste un qui gagne. Là. Mm-hmm. Mais est-ce que ça réduirait la genre de plénitude que j'ai?
C'est un ça ferait une tache au dos.
Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est
t'es-tu
ça.
T'es-tu très compétitif? C'est-tu quelque chose qui t'achèlerait?
Oui, je suis vraiment compétitif. Je suis pas mauvais perdant, mais je suis très compétitif. Tant qu'à le faire, je me donnerais, je ferais tout ce que je peux pour gagner. Mais c'est ça, je suis pas mauvais perdant du tout. Puis je pense aussi, tu sais, dans le sens que je le verrais aussi comme une expérience sociale supplémentaire. Tu sais, 92 jours dans une maison tu sais, avec les mêmes personnes, c'est vraiment, il y a quelque chose d'hyper enrichissant socialement, puis aussi sur ce qu'on apprend sur soi-même. Moi, j'ai appris des choses sur moi. Il y a quelque chose de... Donc, pour moi, je verrais ça comme une éducation supplémentaire puis rencontrer des nouvelles personnes avec qui je n'ai pas habité parce que ça me surprendrait qu'ils prennent 16 personnes de la saison 1.
saison 1.
C'est la seule bonne, donc on va les remettre.
Chantal Toupin, je pense qu'elle serait réinvitée.
Ah oui?
Oui.
On ne sait jamais.
J'ai pas écouté Big Brother, mais je sais qu'elle a fait des médicaments puis l'alcool qui est mélangé.
Ouais, 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 ouais. On n'est pas obligé de retourner.
Non, tu vois, mais c'est le seul fait que je connais Big Brother, je suis content de le dire.
Ouais, ouais.
Hey, mais Jean-Thomas Jobin, merci beaucoup.
Ben,
c'est ce qui fait le tour. Si les gens veulent acheter des billets pour ta tournée, n'importe où, sauf qu'à Amos, parce que ça va déjà être passé, où est-ce qu'ils vont?
JeanThomasJobin.com, c'est très simple. Il y a des liens pour les billetteries individuelles sur. Le site, je suis vraiment moderne. Là. C'est cool. Là. J'ai un site internet, jeanthomasjobin.com. Puis venez pour vrai, ben, dans le sens que tous les gens qui regardent, la réaction est bien bonne en salle. Les gens sont debout à la fin, peut-être parce qu'ils ont hâte de s'en aller, mais ils sont quand même debout. Puis, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Fait que je pense que Le plaisir risque d'être contagieux si moi j'en ai puis que les gens semblent en avoir. J'ai la misère à vendre ma salade, je suis très mauvais. Par contre, la romaine, j'la vends vraiment bien. Je trouve qu'elle est en certain niveau de feuilles. quand son t'es spray avec un petit gicleur. Ouh, ce sera pas ça la fin.
Et oui, c'était ce qui met la fin. Alors, merci encore, Jean-Thomas Jobin. Merci Pierre-Anthony d'avoir remplacé Mathieu qui était
ici. Plaisir, merci à Mathieu de m'avoir laissé sa place.
Es-tu comme blessé ou.
Ouais. Il est blessé dans l'âme.
Blessé dans l'âme. Il est un peu intriguant parce qu'il nous montre un peu le bas de sa cheville, très séduisant.
On pourrait, juste faire le rappel de notre commanditaire pour.
Ben oui, absolument. Le podcast est un peu. Le podcast était une présentation de Honeybee parce qu'Honeybee, c'est...
Bon sale!
Et voilà, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée.
Fallait que j'écoute la phrase, t'es plus sûr.